Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver sur Enjoy Orange pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée à l'univers du e-sport. Il sera question donc de comprendre comment l'e-sport est devenu un phénomène en l'espace de quelques années. Au programme de cette émission, une chronique sur les origines du e-sport. Ensuite, un portrait du jeu League of Legends. Après une pause musicale, une interview de Monsieur Terence Figueredo de l'école Powerhouse Gaming. Tout de suite, la chronique sur les origines du e-sport. En l'espace de quelques décennies, le jeu vidéo est devenu un loisir qui rassemble des millions de joueurs à travers le monde. Très vite, les joueurs ont développé un esprit de compétition pour savoir qui était le meilleur, et ce, dès les années 70. Dès 1972, on voit apparaître les premiers tournois de jeux vidéo au sein des universités américaines et des salles d'arcade. Les joueurs s'affrontaient sur des jeux tels que Pong, Space War ou encore Space Invader pour remporter des lots tels que des abonnements à des magazines ou encore des consoles de jeux. C'est dans les années 90 que l'on peut vraiment dater la création du e-sport. Les joueurs s'affrontaient sur des jeux tels que Doom ou encore Quake dans le cadre des LAN parties, des lieux de rassemblement de joueurs à l'échelle locale tels que la DreamHack pour ne citer que lui, pour remporter du matériel informatique et de l'argent, ce que l'on appelle également des cash prizes dans le milieu. À cette même époque, on voit apparaître les premières compétitions internationales telles que l'Evo Championship Series, la World Cyber Games ou encore l'ESWC, et aussi l'apparition des premières ligues professionnelles telles que l'Electronic Sport League ou encore la Cyber Athlete Professional League. En 1997, la Raid Annihilation, un tournoi dans lequel les joueurs s'affrontaient sur le jeu Quake pour remporter une Ferrari, est considéré comme la première compétition d'e-sport. Dans les années 2000, avec le développement d'Internet, l'e-sport est devenu le phénomène que nous connaissons aujourd'hui. Il se structure comme une pratique à part entière et se professionnalise. Les jeux en réseau les plus pratiqués sont les jeux de tir à la première personne tels que Counter-Strike, Overwatch ou encore Call of Duty, les jeux de tir à la troisième personne tels que Fortnite, les jeux de stratégie en temps réel tels que StarCraft, les jeux de type multiplayer Online Battle Arena tels que Dota 2 ou encore League of Legends dont nous ferons une présentation plus tard dans l'émission. Les jeux de combat tels que Tekken, Soul Calibur, Street Fighter ou encore Super Smash Bros. Les jeux de sport tels que FIFA, les jeux de rythme tels que Just Dance ou encore d'autres jeux tels que Hearthstone ou encore Clash Royale. Les fans regarde de plus en plus de vidéos de joueurs en action sur des plateformes de streaming telles que Twitch, Dailymotion ou encore YouTube Gaming pour ne citer que. Mais aussi dans des bars e-sport tels que le Meltdown, bar dédié à l'univers du jeu vidéo. Les fans peuvent aussi assister aux matchs en direct lors des différentes compétitions. Cet intérêt attire logiquement les médias plus traditionnels tels que L'Équipe, Canal+, ou encore ESPN, qui s'intéressent alors au phénomène du e-sport et diffusent à leur tour des compétitions. Avec le développement et la médiatisation, l'e-sport attire de nombreux joueurs qui veulent en faire leur métier. L'e-sport reprend les codes du sport traditionnel dans son organisation. Les joueurs professionnels sont intégrés dans des équipes telles que la Team Vitality, la Team LDLC ou encore la SK Telecom T1, par exemple, qui appartiennent à différents propriétaires. Ces propriétaires recrutent des joueurs et qui les entraînent dans des gaming houses, lieux de vie et d'entraînement pour joueurs professionnels. Les principaux sponsors du milieu du e-sport sont les éditeurs de jeux vidéo tels que Activision Blizzard, Valve, Ubisoft ou encore Riot Games, pour ne citer que, et les entreprises des domaines de l'informatique et du high-tech tels que Intel, Nvidia ou encore Samsung. D'autres entreprises déjà présentes dans le milieu du sport traditionnel, telles que Mercedes-Benz, Audi, Coca-Cola ou encore Red Bull, investissent également dans l'e-sport. Depuis quelques années, les clubs sportifs tels que le PSG, l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais ou plus proche de nous, le Tour FC, possèdent également leur propre équipe d'e-sport. Sur le plan politique, certains pays comme la Corée du Sud, les États-Unis ou encore la Russie considèrent l'e-sport comme un sport à part entière et ont mis en place un statut juridique spécifique pour mieux encadrer sa pratique et aussi pour reconnaître les joueurs professionnels comme des athlètes de haut niveau. La France fera de même avec la loi pour une République numérique en 2016 et crée au passage l'association France e-sport qui a pour but de promouvoir et de mieux encadrer la pratique du e-sport. L'e-sport a évolué à vitesse grand V pour devenir un phénomène planétaire avec son public, ses codes et son système économique. Toutefois, des interrogations demeurent sur son avenir sur le long terme. Quelle place pour les femmes dans ce milieu très masculin? Verra-t-on un jour des tournois mixtes? Est-ce un vrai sport au même titre que le football ou le rugby? L'e-sport pourra-t-il un jour être un sport olympique? Tout de suite, le portrait du jeu League of Legends. League of Legends est un jeu de stratégie de type multiplayer, Online Battle Arena, édité par Riot Games, un éditeur de jeux vidéo américain en 2009. Le jeu se joue gratuitement en ligne sur Mac et PC. Dans toute partie de League of Legends, le joueur contrôle un champion, ce que l'on appelle un personnage dans le jeu. Chaque champion possède son propre caractère, ses attaques et des compétences. Le joueur peut également acheter des objets tels que des armes ou encore des potions pour remporter les batailles. Chaque partie se joue en deux équipes, composées de 3 ou 5 joueurs en fonction de la carte choisie, telles que la faille de l'invocateur, la forêt torturée ou encore l'abîme hurlant, ce que l'on appelle l'environnement du jeu, dans League of Legends. Et aussi des modes de jeu choisis tels que le mode normal ou encore le mode Aram pour ne citer que. Le but du jeu est simple, détruire le bâtiment principal de l'équipe adverse, ce que l'on appelle le Nexus dans le jeu. Pour y arriver, l'équipe doit faire tomber les tourelles de l'équipe adverse présentes dans les voies du bas, du milieu et du haut de la map. Les champions sont alors aidés de sbires, des unités pour aider les champions à attaquer les ennemis. En remportant des batailles, les joueurs gagnent des gains de niveau et de l'expérience, mais peuvent aussi acheter des objets dans le jeu grâce à des pièces d'or pour améliorer les compétences de leurs champions. Au-delà du simple jeu, League of Legends, c'est aussi une communauté active qui rassemble des millions de joueurs à travers le monde, qui regardent des vidéos de joueurs en action, qui suivent les compétitions par le biais de plateformes de streaming telles que Twitch, entre autres, et qui assistent également aux matchs. Certains joueurs participent même à des tournois pour remporter des cagnottes pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'euros. League of Legends est un des jeux les plus pratiqués sur la scène compétitive, au même titre que Counter-Strike ou encore StarCraft. Les joueurs s'affrontent lors de compétitions organisées par Riot Games, la League of Legends Championship Series, qui se déroule 2 fois par an. En Allemagne, pour la League of Legends Championship Series Europe, aux États-Unis pour la League of Legends Championship Series North America et aussi en Corée du Sud pour la League of Legends Champion Korea. Entre-temps, les meilleures équipes s'affrontent lors de la Mid-Season Invitational, des All-Stars et aussi lors des championnats du monde de League of Legends qui ont lieu tous les ans. Parallèlement aux compétitions organisées par Riot Games, la DreamHack ou encore l'ESWC pour ne citer que, proposent également des compétitions de League of Legends. Maintenant, laissons place à une pause musicale. Legend Never Die du groupe Against the Current.
Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless you survive.
Legends never die.
De retour sur les ondes de Studio ZEF, nous allons maintenant parler des écoles d'e-sport en France. Avec le développement et la médiatisation, l'e-sport attire de nombreux joueurs qui veulent en faire leur métier. À ce jour, il n'existe pas de parcours bien défini pour devenir joueur professionnel, commentateur ou encore organisateur de tournois. Depuis 2016, on voit apparaître les premières écoles dédiées au e-sport telles que la Montpellier Gaming Academy, la Helios Gaming School, la Paris Gaming School à Montreuil ou encore la Powerhouse Gaming dont vous entendrez l'interview plus tard dans l'émission. Ces formations durent en moyenne 10 mois pour former des jeunes aux métiers du e-sport tels que joueur professionnel, commentateur, coach, streamer, manager ou encore organisateur de tournois. En plus des écoles spécialisées, certaines écoles de commerce et de management, telles que l'ISEFAC, proposent des bachelors sur 3 ans. Tout de suite, l'interview de M. Figueredo, directeur de l'école Powerhouse Gaming de Mulhouse. Bonjour Terence.
Bonjour.
Merci de nous avoir accordé du temps pour cette interview.
Merci d'avoir pensé à moi pour la faire.
Pouvez-vous vous présenter ainsi que la Powerhouse Gaming ?
Alors, je suis Terence Figueredo, je suis donc le fondateur et le directeur de l'école Powerhouse Gaming à Mulhouse, qui est donc l'école e-sport d'Alsace. Donc, qu'est-ce que l'e-sport ? L'e-sport, c'est la pratique des jeux vidéo à caractère compétitif. Et moi, j'enseigne en fait tous les métiers qui gravitent autour de cet univers. Donc, bien sûr, ça forme tout aussi bien les joueurs professionnels en devenir que les organisateurs d'événements, les vidéastes, les techniciens réseau, les personnes à la communication, etc.
D'où vous est venue l'idée de créer une école dédiée au e-sport ?
Bien, en fait, c'est parce que j'essaye d'apporter un produit qui m'aurait fallu, en fait. C'est aussi simple que ça. Je pense que quand j'étais jeune, j'aurais aimé étudier ça et peut-être que ça m'aurait même servi pour pourquoi pas faire carrière là-dedans plus tôt, etc. Et du coup, ben, j'ai été compétiteur sur certains sports cérébraux, comme on les dit chez nous. Et j'ai un petit peu pu voir l'envers du décor, voir ce qui se passait, voir ce dont on avait besoin. Et je me suis dit qu'il y avait énormément de jeunes qui devaient être dans mon cas de figure et qu'il y avait besoin d'une vraie structuration et de commencer par l'éducation. Ça me semblait en fait inévitable, c'était nécessaire.
Quelles sont les matières enseignées à la Powerhouse Gaming ?
Alors les matières, c'est donc le management de projet, le management d'équipe, des cours de langue, des cours de communication, de graphisme, d'utilisation vidéo, quelques cours de web. Il y a des cours de réseau, des cours de culture générale e-sportive. Il y a des retours aussi d'expérience de gens du milieu. Enfin voilà, c'est toutes ces matières-là qu'on enseigne chez nous.
Combien d'élèves sont inscrits dans cette école ?
Alors, cette année, nous en avons 48. Donc, l'année dernière, nous en avions 24. Là, cette année, 48. Et l'année prochaine, ça risque d'être le double.
Quels sont les critères requis pour être admis dans cette école ?
Alors, il faut avoir le bac, il faut avoir 18 ans. Et il faut avoir un projet professionnel défini, abouti, pour que nous, on puisse étudier tout ça et voir si on a les outils nécessaires pour aider la personne.
Les élèves, quand ils s'inscrivent à cette école, est-ce qu'ils jouent déjà à la base aux jeux vidéo ?
Alors, la plupart des élèves, ouais, quand ils postulent chez nous, ils sont déjà pratiquants. Ils ont déjà un niveau de jeu assez confirmé, en général. Et oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. En général, ils sont déjà bien dedans. En tout cas, vu qu'ils ont 18 ans, la plupart savent que c'est ça qu'ils veulent faire.
Quels jeux sont proposés dans l'école ?
Alors on a donc on propose League of Legends, on propose Overwatch, Counter-Strike, on propose FIFA, on propose pour l'année prochaine Fortnite et Rocket League en plus.
Quels sont les débouchés après avoir fait cette formation ?
J'ai envie de dire n'importe quelle boîte sportive en fait. C'est aussi simple que ça, c'est un petit peu comme n'importe quel secteur en fait, vous apprenez vous avez des acquis métiers en fait, mais des acquis métiers qui sont adaptés au monde de l'e-sport. Comme si par exemple vous faisiez, je sais pas, de la grande distribution ou vous étudiez là-dedans, bah, la plupart du temps vous allez chercher du travail là-dedans. Bah, là c'est pareil en ce qui concerne l'e-sport.
Quel regard portez-vous sur l'évolution du e-sport ?
Ça avance en France lentement, mais on avance. Et on avance de manière sûre. C'était moi qui étais dedans en fait, tout le monde voit que c'est une explosion, mais moi qui étais dedans depuis un moment, je pense juste que c'est la suite logique en fait, donc c'est très positif. Ça avance à son rythme, mais ça se structure et puis ça annonce de très belles choses pour dans 5 ans.
Qu'en est-il au niveau local de votre
Alors, côté? Au niveau local, on a actuellement sur Mulhouse, au niveau local, je pense qu'on a l'écosystème le plus performant, le plus puissant et le plus abouti en ce qui concerne l'éducation e-sportive. En ce qui concerne le spectacle e-sportif, on est plutôt bien loti. Et derrière, on a tous les partenaires nécessaires. La ville aide beaucoup à développer en fait tous les projets qu'on a en tête. Comme dit, que ce soit du développement pour commencer les études plus tôt, de manière stable dans l'e-sport, que ce soit des clubs de sport qui se lancent dans l'e-sport avec nous, etc. Enfin, ouais.
Pour revenir à l'école, est-ce que tous les élèves qui sont inscrits dans cette école veulent tous venir des e-sportifs?
Alors, je pense que la plupart des jeunes, c'est leur première idée au moment où ils s'inscrivent, oui. Mais nous, on est là pour justement, bon, bien sûr, leur permettre de se développer, mais aussi leur apprendre tous les métiers qu'il y a autour. Comme ça, si jamais ils n'arrivent pas à leur fin, ils ont au moins un acquis métier qui leur permettra de travailler dans ce secteur pour qu'ils puissent en fait s'épanouir toute leur carrière.
Qu'est-ce que le projet Fil Rouge?
Alors le projet Fil Rouge, c'est, on va dire que c'est la mise en pratique métier des métiers que l'on enseigne chez moi. En gros, ils travaillent toute l'année sur un projet qui a lieu au Palais des Sports de Mulhouse, qui s'appelle les Power Gaming Series. Donc en fait, c'est un gros événement scénique avec une grosse compétition sur plusieurs jeux, un spectacle avec public. Et en fait, voilà, c'est la mise en pratique de tous les métiers que l'on enseigne. En fait, on en enseigne quatre en plus de l'aspect joueur professionnel et ces quatre-là sont retranscrits en fait lors de cet événement. C'est leur examen final.
Comment voyez-vous l'avenir de la Powerhouse Gaming?
Alors, l'avenir de la Powerhouse Gaming, je pense que, étant donné les sollicitations qu'on a et tous les projets qu'on a autour, elle va s'agrandir. C'est certain, en tout cas, le projet Powerhouse Gaming va dépasser la simple école sous type de gaming house. Je pense que nous aurons des produits avec des universités, des lycées, des collèges et des succursales peut-être un petit peu partout en France, voire même ailleurs, vu les sollicitations qu'on a.
Et du e-sport en général?
Le e-sport, c'est en train de devenir comme du sport, hein, c'est en train de se stabiliser. Je pense que le e-sport est déjà ancré dans la tête de nos jeunes et dans leurs mœurs. Il ne tient qu'à nous en fait de nous adapter, ce qu'on est en train de faire. Et je pense que dans quelques années, l'e-sport en fait sera banalisé. Ce sera plus vraiment le phénomène comme on en parle maintenant comme un phénomène. Non, ce sera tout simplement rentré dans le rail.
Et tant qu'à intégrer le e-sport aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que après l'Olympe avait prévu ça à la base, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le cerveau, comme le corps, le reste du corps, est un muscle qu'il faut développer, qui demande des compétences bien particulières. Je pense que ça a sa place aux Jeux Olympiques.
C'est ainsi que s'achève cette émission consacrée à l'univers du e-sport. Nous remercions M. Terence Figueredo d'avoir accepté notre demande d'interview. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette émission. On se retrouve très bientôt pour une autre émission sur l'e-sport en région centre, sur Studio ZEF. L'émission que vous venez d'écouter est disponible en podcast sur studiozef.fr.